Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins s'obstinent tous les jours en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Tristan Grenassia, Antoine Ravon et Pierre Follier. À la réalisation persévérante cette semaine, Midia Portis-Guérin, à la lecture entêtée, Georges Clès, avec aujourd'hui à la prise de son qui tient bon, Bruno Gagnère-Fontanille. À 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine, qui vous donnera envie de lire aujourd'hui l'essai que Marcel Conche a consacré à Épicure et qui vient de paraître aux éditions Encre Marine. L'obstination ou l'art de ne jamais abandonner, c'est notre entêtement cette semaine à l'occasion de la sortie du 3e volume de la collection Questions de caractère, la collection des nouveaux chemins coéditée par Plon et France Culture qui donne la parole à des philosophes contemporains sur le caractère de leur choix. Alors après la jouissance de Jean-Luc Nancy et la méchanceté de Michael Fessel, c'est l'obstination de Myriam Revaud-Allonne qui vient de voir le jour la semaine dernière. Myriam Revaud-Allonne qui est mon invitée toute cette semaine, bonjour à vous.
Bonjour Adèle.
Vous êtes avec nous donc depuis lundi, vous avez évoqué les ambiguïtés inhérentes à l'obstination. Hier, le philosophe Tony Negri vous a rejoint pour évoquer la question du conatus spinoziste et savoir dans quelle mesure l'obstination se distingue de la persévérance. Et aujourd'hui, pour ce 3e temps, c'est d'obstination déraisonnable que nous allons parler. Obstination déraisonnable, qui est l'autre nom de l'acharnement thérapeutique. Et pour l'occasion, vous êtes venu accompagné de Jean-Claude Amézène, professeur d'immunologie à l'Université Paris Diderot et président du Comité consultatif national d'éthique. Bonjour à vous, Jean-Claude.
Bonjour.
En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
Il résulte de l'instruction que M. Vincent Lambert avait, avant son accident, clairement et à plusieurs reprises, exprimé le souhait de ne pas être artificiellement maintenu en vie au cas où il se trouverait dans un état de grande dépendance. L'ensemble des informations recueillies sur l'histoire et les opinions personnelles de M. Vincent Lambert ont par conséquent conduit le Conseil d'État a estimé que l'arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté. Le Conseil d'État a jugé que le médecin en charge de M. Vincent Lambert avait respecté les conditions imposées par la loi pour l'arrêt des traitements. Après avoir recueilli l'avis de 6 autres médecins et de la famille, il a pu, sans commettre d'illégalité, et aussi douloureuse que soit cette décision, estimer que la poursuite des traitements traduisait une obstination déraisonnable.
Alors nous venons d'entendre Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, qui annonce que le Conseil d'État a tranché sur le cas de Vincent Lambert. Vincent Lambert ne sera pas maintenu en vie, dit-il. Or, quelques heures après cette annonce, la Cour européenne des droits de l'homme, elle-même saisie par la partie des proches de Vincent Lambert qui était opposée à sa mort, suspend cette décision. Elle n'a toujours pas rendu son verdict. J'ai lu juste avant un extrait de la loi Leonetti qui affirme bien que justement le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, Jean-Claude Amézène, en quel sens cette obstination est-elle dite déraisonnable et par Jean-Marc Sauvé et par la loi elle-même dite Leonetti?
Elle n'est pas dite déraisonnable par la loi elle-même. La loi dit que le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Ce que dit le vice-président du Conseil d'État, et ce qui a été l'arrêt rendu par le Conseil d'État, c'est que, et c'est important, la volonté de Vincent Lambert, telle qu'elle a été interprétée par ce que le Conseil d'État a pu entendre de l'expression de la part de ses proches, était de ne pas continuer à être nourri et hydraté de manière artificielle dans une condition semblable. Et donc on voit bien que dans cette acception du terme, le caractère déraisonnable serait de ne pas tenir compte de la volonté qu'aurait exprimée la personne. Et donc je crois que ce qu'il y a de... un des aspects extrêmement importants de ce caractère, c'est compliqué de savoir ce qu'est une obstination raisonnable et ce que serait une obstination déraisonnable. Et c'est un point dans les observations écrites que le Conseil d'État nous a demandé de lui rendre, qu'on lui a rendu au début mai. C'est une partie des questions qu'on s'est posées. Qu'entend-on par obstination déraisonnable? Et il me semble, et c'est là que peut-être ce terme est différent du terme d'acharnement thérapeutique.
Voilà, y a-t-il une différence?
Acharnement thérapeutique, au fond, se centre sur le comportement du médecin. Il s'acharne. Obstination déraisonnable, dès qu'on parle de raisonnable et donc de raisonner, ça implique un dialogue. Ça implique un dialogue avec les autres. Et donc je crois que dans cette notion intervient la volonté de la personne, les conseils, les discussions, l'ouverture à l'autre. Et donc c'est différent de quelque chose qui est vu simplement comme l'acte du médecin seul. Je pense que la notion d'obstination déraisonnable est un appel à une décision raisonnée. Et nous avions même proposé dans nos observations écrites qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence véritablement d'une décision médicale. Savoir si il faut continuer à alimenter, hydrater de manière artificielle une personne dont l'état de conscience est très altéré, mais qui peut vivre encore pendant très longtemps. L'expertise médicale est importante pour savoir quel va être l'avenir de la personne, quelles sont l'importance de ses lésions. Mais vous voyez bien, il y a 1500 personnes, estime-t-on aujourd'hui, dans le même cas que Vincent Lambert, et on voit bien que c'est pas une simple décision médicale de dire on continue ou on arrête. Et donc l'idée, c'est que ce qui est vraiment important, c'est la volonté de la personne. Et ce qu'on avait proposé, c'est que la loi parle d'une procédure collégiale. Mais en fait, c'est une procédure de consultation par le médecin, des soignants, de ses collègues, des proches et de la famille. Mais le médecin décide seul. C'est pas une décision collégiale. Et donc, ce que nous avions proposé, c'est que, comme ça se fait en Allemagne, dans des cas aussi extrêmes, aussi incertain, où on va prendre une décision irréversible qui va provoquer la mort de la personne, eh bien, que ça soit une délibération où les proches, la famille, les soignants soient à part entière impliqués, et que s'il n'y a pas d'accord qui se dégage, il puisse y avoir une médiation. Et l'idée, c'est évidemment pas ce que pense le médecin, ce que pense le soignant, ce que pense la famille ou les proches. C'est ce que chacun pense de ce que la personne aurait voulu. Et à ce moment, le caractère raisonnable ou déraisonnable, c'est d'essayer au mieux de comprendre ce que la personne aurait voulu. Et donc, c'est le fait de s'ouvrir aux autres et, en premier lieu, à ce qu'aurait été la volonté de la personne.
Myriam Revaud-Dallon.
Oui, je crois qu'effectivement, il faut insister ici sur le coefficient, je dirais, d'incertitude et d'évaluation collective qui s'attache au mot même de raisonnable ou de déraisonnable. Raisonnable, c'est pas rationnel. Et raisonnable, c'est pas non plus tellement, au fond, conforme à la raison, dans la mesure où, s'il s'agit d'une rationalité scientifique, calculante, on n'aurait pas tous ces problèmes. Hein. On parlerait, on aurait affaire à quelque chose qui serait de l'ordre, disons, d'une science exacte. Hein, et ce serait une rationalité, si je puis dire, calculante. Hein, on pourrait dire les choses comme ça. Or, le fait de parler de raisonnable indique qu'il y a une marge, à la fois une marge d'incertitude. D'autre part, effectivement, vous avez prononcé le mot de délibération, ce qui est extrêmement important. Et c'est par le biais de la délibération, de la discussion, que peuvent se faire des appréciations dont on sait d'une certaine façon, quand on parle de raisonnable, qu'on est quand même dans une espèce plus ou moins d'approximation, qu'on s'approche de quelque chose, que c'est pas de l'ordre de la vérité ou de la raison absolue, mais qu'on est dans l'ordre, au fond, de ce qu'Aristote déjà appelait les affaires humaines. Le domaine des affaires humaines. Et au fond, aussi bien l'éthique que la politique, puisqu'il est question de ça, quand on parle de déraisonnable, aussi bien l'éthique que la politique font appel, d'abord prennent en compte la contingence et le fait qu'on ne peut pas prendre des décisions conformément, au fond, à des vérités qui seraient établies par avance. Et donc, il y a ici, à la fois, c'est la question de l'appréciation des valeurs, qui d'ailleurs peuvent différer. Quelquefois, il est très très difficile de trouver un accord. Donc le mot de déraisonnable ou de raisonnable me paraît effectivement extrêmement important et plus riche que l'expression d'acharnement thérapeutique, où au fond, l'acharnement thérapeutique, c'est quoi? C'est la description au fond d'un comportement, c'est une description.
Ah bon. Mais quand même, le terme de raisonnable paraît vraiment problématique, en l'occurrence dans cette question de la fin de vie, puisque certes, il s'agirait d'être non pas simplement rationnel, vous l'avez dit, mais d'être raisonnable, et donc d'en appeler à un certain usage de la raison, du qui passe par le dialogue, par la prise en compte du souhait exprimé par le patient, quand celui-ci a pu avoir l'occasion de l'exprimer. Que reste-t-il de raisonnable dans une décision qui va sans doute paraître arbitraire, quand la personne n'a pas exprimé, soit parce qu'elle ne peut pas exprimer un souhait dans le cas des prématurés, des grands prématurés par exemple, ou des personnes qui sont dans des situations, disons, de coma artificiel et qui n'ont jamais exprimé ce qu'elles auraient souhaité, que les proches ne sont pas d'accord, c'est le cas de Vincent Lambert notamment. Est-ce que tout revient en fin de compte, tout repose entre les mains d'un médecin qui va décider pour une autre personne, en fonction de quels critères? Vous voyez, que reste-t-il de raisonnable là-dedans?
Alors,
Jean-Claude Amezen ou Mariam Revaud-Allen?
Peut-être que l'expression même d'obstination déraisonnable ne rend pas compte de tous les problèmes qui sont, je dirais, afférents à ce type de décision. Tout à l'heure, j'ai parlé de valeurs. C'est-à-dire, en fin de compte, il y a une discussion sur les valeurs et de façon sous-jacente, qui n'est pas impliquée par le terme de raisonnable ou déraisonnable, il y a une discussion sous-jacente sur la valeur de la vie. C'est-à-dire sur, me semble-t-il, c'est-à-dire la valeur de la vie ou même la définition que l'on peut donner de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenir en vie, à quelles conditions, de quoi parle-t-on quand on parle de vie? Moi, j'insisterai beaucoup derrière tout ce mot, ce terme de raisonnable, sur un ensemble d'incertitudes et d'ouverture à la discussion qui ne concerne pas simplement la conformité ou la non-conformité à la raison.
Et ça, c'est deux choses différentes, la question de la valeur de la vie sur laquelle on peut statuer de manière juridique et le souhait exprimé par un individu qui va peut-être à l'encontre de cette norme sur laquelle on va statuer juridiquement.
Mais ça fait partie des incertitudes.
Oui, mais je crois qu'il faut reprendre les choses à l'origine. Il faut prendre la loi du 4 mars 2002, la loi dite Kouchner. La loi du 4 mars 2002 dit qu'une personne prend avec le médecin, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé, et la loi donne le droit à toute personne, à condition qu'il ait eu le temps de réfléchir, qu'elle soit libre, qu'elle ait été correctement informée et objectivement informée, d'arrêter des traitements, y compris quand ces traitements la maintiennent en vie. Donc, toute personne a le droit d'interrompre ses traitements. Et le médecin peut essayer d'expliquer à la personne les conséquences, mais il est tenu d'appliquer la décision de la personne. Et donc, en fait, le raisonnable, il y a deux notions. Un médecin raisonnable, ou qui s'obstine raisonnablement, c'est qu'il prend en compte les pratiques, il prend en compte ce qu'on connaît des traitements, et il ne fait pas des traitements dont on ne connaît rien. Mais vous savez que même là, le côté raisonnable, c'est que l'efficacité des traitements, elle repose sur des preuves statistiques. Mmh. Et donc, c'est 80%, 50%, 70%. Ça ne vous dit jamais ce qui va se passer en dehors de cas très rares, chez une personne donnée. Et donc, à côté de l'exercice, de la raison, de la connaissance, il y a encore une fois le dialogue, l'ouverture. Comment traduire la meilleure démarche pour une personne particulière? Ça, c'est, je dirais, l'expertise médicale, qui n'est pas évidente. La deuxième, c'est qu'aider raisonnable des actes du médecin qui iraient contre la volonté de la personne. Et donc, vous voyez que d'emblée, dans ce caractère raisonnable, il y a le droit de la personne à refuser un traitement que la loi admet depuis 12 ans. Et puis, il y a le caractère raisonnable, raisonné des traitements que propose le médecin. Ça, c'est quand la personne est capable d'exprimer sa volonté. Maintenant, si la personne n'est plus capable d'exprimer sa volonté, il y a deux cas de figure. Soit elle a rédigé des directives anticipées en disant « si j'étais dans tel état, je ne voudrais pas ou je voudrais qu'on continue à appliquer tel ou tel traitement ». Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi du 22 avril, la loi 2005 de la loi Leonetti, ces directives anticipées sont prises en compte par le médecin comme des souhaits. Donc ce ne sont pas des directives. La loi parle de directives, mais ce sont des souhaits. Et donc ce qu'on a dit dans notre rapport qu'on a rendu il y a 10 jours sur l'ensemble du débat public qui s'est déroulé depuis 2 ans sur la fin de vie en France, c'est qu'il y a une demande très largement partagée dans le pays pour que ces directives anticipées, si la personne les a rédigées, s'imposent aux soignants, sauf si évidemment la situation ne correspond pas à la situation de la personne. Il y a la personne de confiance. On peut dire, voilà, s'il y a une décision qui se pose et que je ne suis plus capable de décider, eh bien c'est telle personne à qui je délègue en mon nom, me connaissant, j'ai parlé à cette personne, ce qu'il convient de faire. Aujourd'hui aussi, la personne de confiance n'est qu'une personne qui va émettre un souhait que le médecin va prendre en compte. Et puis vous avez le cas extrême, qui était le cas de Vincent Lambert, dans lequel la personne n'est pas en fin de vie. Et donc, il ne s'agit pas de savoir.
Ça, c'est important de le préciser. Voilà, il est maintenu de manière artificielle en vie.
Artificielle. Vous savez, quelqu'un qui est diabétique et qui prend de l'insuline est maintenu de manière artificielle en vie. Quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, qui a un respirateur chez lui, est maintenu artificiellement. Donc, la notion aussi de maintien artificiel en vie est une notion très complexe. La plupart des traitements, la réanimation quand quelqu'un est blessé, c'est un maintien artificiel transitoire le plus souvent quand ça a un résultat heureux, en vie. Donc, il y a aussi derrière cette notion de maintien artificiel l'idée que la personne ne voudrait pas, on revient à la volonté de la personne, être maintenue dans cet état. Quand la personne peut exprimer sa volonté, encore une fois, elle peut dire « j'ai décidé d'arrêter ». Quand elle a fait des directives, qu'elle a écrit des directives et qu'elle s'imposerait, eh bien elle peut dire « voilà, dans un cas comme ça, je ne voudrais pas ». Et donc, est raisonnable le fait de prendre en compte et d'appliquer la volonté de la personne. Et puis, on a des cas, vous savez que la loi Leonetti mélange, traite ensemble deux cas très différents. Les personnes qui sont en phase terminale d'une affection grave et incurable. Donc la question c'est, est-ce que le médecin doit prolonger de quelques jours, de quelques heures, une vie, si ça doit causer des souffrances, s'il n'y a pas d'espoir. Ça c'est le côté raisonnable de la fin. Et puis c'est les personnes en phase avancée d'une affection grave et incurable, ce qui était le cas de Vincent Lambert, qui ne sont pas en fin de vie. Et où donc ce qu'on va décider si on interrompt, eh bien, c'est qu'on va provoquer la mort de la personne. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même situation. Les cas comme Vincent Lambert sont les plus extrêmes, puisque la personne n'est pas en fin de vie, la personne n'a pas rédigé de directive anticipée, et la personne n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Et là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut essayer, une fois qu'on a fait le point sur la gravité de la situation et sur le pronostic, ce qu'on peut espérer dans le futur, eh bien, l'idée, c'est eh bien, il faudrait comprendre ce que la personne aurait voulu. Et donc, il ne faut pas décider à la place de la personne. C'est-à-dire, moi, si j'étais dans telle situation, c'est qu'est-ce que la personne aurait voulu. Il y a eu une grande étude qui montre la difficulté et le caractère un peu absurde, d'ailleurs, de se mettre à la place de la personne. Grande étude faite sur 2700 personnes par l'équipe de l'étude du coma de Liège, c'est Stephen Lawrence, les plus grands spécialistes des états de conscience minimale. La personne est éveillée, mais elle ne communique pas ou communique à peine. Cette étude a été faite chez 2500 médecins de 32 pays de l'Europe. Et la question qui était posée, il y avait plein de questions, donc elles ne se suivaient pas, mais l'une des questions était, si votre patient est dans un état qui est semblable à celui de Vincent Lambert, est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle ou pas ? 2/3 des médecins disaient non. Plus loin, il y avait une question qui était, si vous étiez dans un cas comme ça, est-ce que vous voudriez qu'on arrête ou pas ? 2/3 des médecins disaient oui. Et donc, vous voyez qu'il y a une très grande difficulté de se mettre à la place des gens, y compris quand on est soignant, et que le vrai problème, c'est d'essayer de savoir ce que la personne aurait voulu. Et que le caractère raisonnable ici, il est justement un essai de prendre en compte la volonté de l'autre, sachant que quand la personne peut parler, c'est facile. Quand elle a écrit, c'est moins difficile. Et quand elle n'a pas écrit et qu'elle ne peut pas s'exprimer, c'est là que les cas
sont les plus difficiles. On est à la limite ultime du raisonnable. Parce que même, imaginons quelqu'un qui peut parler, on ne sait pas forcément d'ailleurs si on déciderait ou pas de vouloir rester en vie dans ces moments-là. Là, on est vraiment dans les domaines de l'éthique qui sont les plus épineux possibles. Pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour essayer de voir ce qu'il aurait voulu, même dans les situations qui ne sont pas aussi extrêmes, c'est quand même très difficile à faire. Donc on est sur un terrain très friable.
En Allemagne, ce qui se passe, c'est qu'on réunit non seulement les proches et la famille, les soignants et les médecins, mais on réunit même les voisins, la personne qui venait prendre le café tous les matins avec la personne, c'est-à-dire toutes les personnes qui auraient pu entendre, savoir ce que la personne leur a dit et ce que la personne souhaitait. Donc il s'agit de faire quelque chose d'impossible, mais de le faire le moins mal possible. Essayer de savoir ce que la personne aurait voulu.
C'est là on voit que ça devient une question sociale.
Ça devient une complication extrême. Et moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que cette expression de raisonnable ou de déraisonnable, c'est, je dirais, la pointe la plus fine d'un ensemble de problèmes qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus difficiles en amont. Parce que même cette histoire on pourrait presque appeler ça une sorte de consensus par recoupement, on fait venir l'entourage, on consulte les gens. Mais on a toutes les chances, au fond, de tomber sur des avis qui sont des avis extrêmement divergents.
Non, si vous voulez, je crois que souvent les avis sont divergents parce que les personnes répondent ce qu'elles auraient souhaité elles-mêmes. Elles ne répondent pas sur qu'est-ce que cette personne m'a dit.
Elle parle d'elle-même.
C'est hors sujet, puisque la question n'est pas
savoir. Oui, elles ne sont peut-être pas forcément d'accord, même en parlant d'elles-mêmes, c'est ça
absolument,
que vous voulez dire.
C'est hors sujet, mais malheureusement, c'est la difficulté de se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire est-ce que...
C'est pas se mettre à la place d'eux, c'est recueillir, si cela existe, ce que la personne a dit, qui laisse supposer ce qu'elle aurait voulu. Et je crois que c'est un problème très général. Vous savez qu'actuellement, un des grands problèmes dans notre pays, en fin de vie, puisqu'on parle de fin de vie, c'est quand même que 80% des personnes qui devraient voir leur douleur soulagée, avoir accès aux soins palliatifs, n'y ont pas accès.
Il y a une loi
depuis 15 ans qui donne accès à tout le monde. Et l'expression générale des personnes, qu'on ne les écoute pas, qu'on ne tient pas compte de leur volonté. Alors c'est vrai dans des tas de circonstances, mais c'est vrai aussi, enfin, et donc une des premières dimensions de ce caractère raisonnable, c'est l'appel au dialogue, c'est le rappel de ce que dit la loi. Au fond, ces décisions, le médecin aide la personne à construire sa décision, on ne décide plus. À la place de la personne.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il n'empêche que cet appel au dialogue, cet appel à l'ouverture comporte quelque chose d'absolument, je dirais, inachevable et indécidable. Et c'est là où on revient au fond à la première acception du raisonnable, qui est ce qu'on pense pouvoir être, peut-être pas par défaut, mais le plus, non pas seulement le plus conforme à la raison avec un R majuscule, mais le plus conforme à, au fond, des valeurs communes.
Oui,
on peut dire les choses comme ça.
Ce que Amartya Sen appelle le débat raisonné,
absolument.
Au fond, la forme la plus ouverte de démocratie.
Absolument.
C'est-à-dire le fait de prendre en compte les avis des autres.
Ce qui est une dimension politique ici de la question.
Quand j'ai parlé du consensus par recoupement, c'est l'expression d'Habermas. Enfin, on a un petit peu le même... au fond, la même modalité de réflexion et d'avancée dans le raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels la décision qui doit trancher, de toute façon, est imparfaite. Mais quand je dis imparfaite, ce n'est pas nécessairement négatif, parce que quelque chose qui est imparfait, c'est quelque chose qui peut aussi s'améliorer. Donc on sait qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inachevable, de l'approximatif et d'une évaluation la plus positive possible, mais pas entièrement positive.
Oui, c'est comme la démocratie, c'est le risque du moins mauvais régime possible.
Oui, enfin, du moins mauvais régime possible, en tout cas parmi tous les régimes qui ont été expérimentés dans l'histoire.
Vous vouliez insister, Myriam Bruvaudalon, sur la question de la définition de la vie et de la valeur de la vie, justement, qui découle de la prise de position qu'on peut avoir par rapport à cette question de l'obstination déraisonnable. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un témoignage, c'est celui de Jean-Dominique Bobby, qui a écrit en 1997 Le scaphandre et le papillon. Jean-Dominique Bobby, qui suite à un accident s'est retrouvé paralysé de tout le corps, si ce n'est de la paupière gauche, avec laquelle il a pu écrire un ouvrage. On va en entendre un extrait tout de suite interprété par le comédien Georges Clesse.
« Derrière le rideau de toile mitée, une clarté laiteuse annonce l'approche du petit matin. J'ai mal au talon, la tête comme une enclume, et une sorte de scaphandre qui m'enserre tout le corps. Ma chambre sort tout doucement de la pénombre. Pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir où je suis et me rappeler que ma vie a basculé le vendredi 8 décembre de l'an passé. Jusqu'alors, je n'avais jamais entendu parler du tronc cérébral. Ce jour-là, j'ai découvert de plein fouet cette pièce maîtresse de notre ordinateur de bord, passage obligé entre le cerveau et les terminaisons nerveuses quand un accident cardiovasculaire a mis le dit tronc hors circuit. Autrefois, on appelait cela transport du cerveau et on en mourait en toute simplicité. Le progrès des techniques de réanimation a sophistiqué la punition. On en échappe, mais flanqué de ce que la médecine anglo-saxonne a justement baptisé le « locked-in syndrome ». Paralysé de la tête aux pieds, le patient est enfermé à l'intérieur de lui-même avec l'esprit intact et les battements de sa paupière gauche pour tout moyen de communication. Bien sûr, le principal intéressé est le dernier mis au courant de ses gracieusetés. Pour ma part, j'ai eu droit à 20 jours de coma et quelques semaines de brouillard avant de réaliser vraiment l'étendue des dégâts. C'est une matinée ordinaire. À 7 heures, le carillon de la chapelle recommence à ponctuer la fuite du temps. Le scaphandre devient moins oppressant et l'esprit peut vagabonder comme un papillon. Il y a tant à faire.
Je voudrais mourir au printemps, quand les fleurs lentement éclosent, quand la terre se métamorphose et que l'air devient plus brûlant. Je voudrais mourir au printemps dans un lit tout couvert de roses, en voyant dehors mille choses que je ne voyais pas avant. Un oiseau.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à l'obstination à l'occasion de la parution du troisième numéro de Questions de caractère, la collection des nouveaux chemins coéditée par les éditions Plon et France Culture. L'obstination dont le co-auteur est Myriam Revaud-Allonne, la philosophe Myriam Revaud-Allonne qui m'accompagne toute cette semaine, en compagnie aujourd'hui de Jean-Claude Amezen, qui est président du Comité consultatif national d'éthique et qui publie aujourd'hui même le troisième volume de son émission qu'il présente sur France Inter, sur les épaules de Darwin, intitulé « Retrouver l'aube », une coédition France Inter et les liens qui libèrent. Et nous parlons tous ensemble de l'obstination déraisonnable.
Sur une branche du soleil, sur une fleur, et partout une avalanche de couleurs et de bonheur. Dans ma chambre, long rideau blanc, en tenant ta main dans la mienne, je voudrais, sans te faire de peine, je voudrais mourir au printemps.
La chambre au rideau blanc de Charles Trenet qui rappelle le rideau de voile, de toile mitée, pardon, et la clarté laiteuse des rideaux qui viennent recouvrir la chambre dans laquelle se trouve le journaliste Jean-Dominique Bobby. Myriam Revaud-Allonne, la question qui se pose à l'écoute de ce texte, c'est celle de savoir de quelle vie parle-t-on lorsque nous posons la question dite de la fin de vie, à savoir à quelles conditions doit-on, peut-on, faut-il maintenir en vie un corps qui, dans le cas de Jean-Dominique Bobby, est tout à fait vivant, puisqu'il peut même écrire à l'aide de son œil gauche, certes, mais il le fait. Mais lui-même, et c'est ce que le texte montre très bien de manière bouleversante, ne se considère à peine plus en vie. Être en vie avec un corps qui ne bouge plus, où il ne peut plus effectuer de mouvement, il ne peut plus être indépendant, c'est selon lui une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécu.
C'est ça la question qui est en fait sous-jacente derrière la question de l'obstination déraisonnable.
Ça fait, c'est cette question de la valeur de la vie ou de la valeur qu'on attribue à la vie ou de la définition que l'on donne à la vie, elle est aussi à la source des discussions ou des conflits, par exemple, qui agitent l'entourage quand il faut prendre une décision concernant le maintien artificiel, entre guillemets, ou le maintien de la... maintenir en vie. Mmh. Et là, la philosophe que je suis ne peut pas s'empêcher de remonter au fond à la racine grecque, hein, à la façon dont les Grecs avaient deux mots pour désigner la vie, la zoé, hein, c'est-à-dire la vie au sens biologique du terme, la vie vitale, et le bios, c'est-à-dire ce qu'on traduirait plus volontiers par existence, ou la vie qui vaut la peine d'être vécue. Hein. Alors, entre les deux, il est très difficile là aussi de trancher. Hein, c'est-à-dire qu'on le voit très bien dans le cas que vous venez d'évoquer. Il est à la fois, au fond, le sujet... d'une vie qui a déserté d'une certaine façon ou d'un corps qui ne peut plus se manifester, ne plus communiquer que par battement de paupières, mais en même temps on peut dire que c'est aussi une vie qui vaut la peine d'être vécue puisqu'il écrit, il peut écrire. Donc en fait il y a deux acceptions très différentes qui cohabitent et qui coexistent et qui rendent la chose absolument presque, je dirais ici, indécisable. Alors indécisable, sauf que sa souffrance, mais comme on dit, qui est exprimée dans le texte, mais en même temps, sa souffrance, elle est transcendée par l'écriture. Donc il y a quelque chose ici.
Oui, mais le problème est quand même celui de la rencontre entre un cas individuel et la loi, la norme, celui ou celle qui va dire finalement oui, cette vie vaut d'être vécue ou non. Si on en revient, le souhait, si on s'en tient simplement au souhait émis par la personne, s'il peut dire je décide d'arrêter cette vie-là. Dans ce cas, il n'y a plus de problème parce que lui émet ce souhait, Jean-Claude Amezen.
Oui,
mais la question juridique, elle pose cette question-là. Doit-on normer finalement le rapport à la mort ?
La question d'ailleurs n'est absolument pas évoquée dans la loi. La question n'est pas du tout de savoir si une vie vaut ou pas d'être vécue. La question est de savoir ce que la personne pense de la poursuite de son traitement. Il ne s'agit pas de juger, de juger ce que la vie... Et je dirais qu'il y a un corollaire à ça, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que si la personne est seule, si elle est isolée, si elle est dans des conditions de souffrance, qui est le cas actuellement chez une immense majorité de personnes en fin de vie, voire en amont de la fin de vie, chez des personnes malades, chez des personnes handicapées, chez des personnes qui sont dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, chez qui on ne soulage pas la douleur, chez qu'on n'accompagne pas, il est évident que l'envie, j'allais dire d'arrêter, est d'autant plus grande qu'il n'y a pas d'accompagnement, qu'il n'y a pas de
solution.
Juste un petit point. En ce qui concerne des personnes qui sont dans ce qu'on appelle un locked-in syndrome ou un syndrome d'affermement, qui est un cas très rare dû à un accident vasculaire ou un accident très précis dans le cerveau, la question ne se pose pas du tout en ces termes. Ces personnes sont absolument, ont une conscience strictement identique à vous et moi. Et donc, elles peuvent, par l'intermédiaire des clignements de paupières, dire ce qu'elles veulent. Et donc, on n'est pas du tout dans le cas d'une personne dont la conscience est altérée, qui ne peut pas s'exprimer. Alors, le livre de Dominique Bobby est bouleversant, il est magnifique. Une étude a été réalisée il y a 3 ans, la plus grande étude qui ait jamais été faite avec des personnes atteintes de locked-in syndrome. Et la question qui était posée, parmi les différentes questions, c'est « Êtes-vous heureux ?» Sur une échelle par rapport aux événements les plus heureux que vous avez connus dans votre vie, êtes-vous malheureux sur une échelle par rapport... 70% des personnes qui avaient un locked-in syndrome depuis plus de 2 ans, donc qui, d'une certaine façon, s'étaient peut-être adaptées à leur état, 70% des personnes ont dit qu'elles étaient heureuses. 25% des personnes ont dit qu'elles étaient malheureuses et une partie de ces personnes a dit qu'elles ne souhaitaient pas continuer à être alimenté et à être hydraté. Et donc, vous voyez bien qu'à une même situation qui est celle de Dominique Bobby, qui est le locked-in syndrome, c'est très surprenant de voir, lorsqu'on pose la question aux personnes, pas lorsqu'on demande à quelqu'un « si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous penseriez ?» Lorsqu'on pose vraiment la question aux personnes, c'est très surprenant de voir, et ça traduit, je pense, les extraordinaires capacités et bouleversantes capacités d'adaptation, si le temps le permet, à des situations qui paraissent des situations terribles ou tragiques, le fait de voir que 70% de ces personnes ont répondu qu'elles étaient heureuses et qu'elles voulaient continuer à vivre.
Myriam Rodallone.
Je n'ai jamais dit qu'on pouvait faire une distinction entre les vies qui valaient la peine d'être vécues et celles qui ne valaient pas la peine d'être vécues. Mais simplement, on voit bien que c'est implicitement, même quand ça n'est pas formulé de cette façon, c'est un questionnement sous-jacent qui est à l'arrière-fond d'un certain nombre, pas seulement de décisions, mais même de représentations, de valeurs, d'estimations. Vous prenez le cas, par exemple, de la famille de Vincent Lambert, qui se déchire autour de la décision à prendre.
Non, autour de la décision à prendre, je ne crois pas qu'elle se déchire, à ma connaissance, sur ce qu'aurait été l'expression de Vincent Lambert. Et donc, je crois qu'il y a une confusion,
Moi, je ne parle pas de ce qu'aurait été l'expression.
Mais je pense que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas décider pour quelqu'un de savoir si sa vie doit continuer ou pas. Par contre, on devrait entendre ce que dit une personne singulière, dans un cas tout à fait particulier, sur son souhait ou pas de continuer à être traité dans sa situation. Une fois, je pense que ça n'est interprétable que si l'accompagnement et les traitements que l'on fournit sont les plus chaleureux, les plus humains et les plus adaptés.
Bien sûr,
et une personne peut dire, même dans cet environnement-là, j'en ai assez.
Mais vous voyez bien que dans le cas de Vincent Lambert, les positions qui sont prises d'une part par les parents, d'autre part par la femme de Vincent Lambert, relèvent au fond des considérations sur la vie qui ne sont pas du tout
même... La femme de Vincent Lambert n'a pas de considération, n'exprime pas de considération sur la vie. Elle exprime ce que son mari... lui aurait dit, ce qui est très différent.
Il y a quand même une distinction fondamentale entre ce que son mari aurait dit et la valeur qu'il attribue ou ce qu'il aurait dit. Il y a une définition sous-jacente ou une représentation, non pas une définition, une représentation sous-jacente de la vie qui commande telle ou telle appréciation. Quand je reprenais cette distinction fondamentale entre la bios, l'existence, une vie qui est dont on considère qu'elle est digne d'être vécue, non pas qui est digne d'être vécue.
Non, mais qui considère ?
Soit, comment dire, l'individu, soit l'entourage.
C'est très différent.
Ce que vous voulez dire, Jean-Claude Amézène, c'est qu'il n'y a pas de place pour la réflexion, disons, philosophique.
Il y a une place dans la réflexion philosophique pour l'importance que l'on attache à l'expression de la volonté d'une personne.
Oui, mais attendez.
Et je crois que confondre, si vous voulez, dès qu'on commence à décider pour une personne que... il faudrait continuer à l'aider à vivre.
Et comment faire autrement dans le cas de Vincent Lambert si on ne sait pas, effectivement?
Vous avez entendu le jugement du Conseil d'État.
Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que ça pose un problème? Pourquoi est-ce qu'on
Parce
en
que ça n'est pas évident, il n'a pas fait de directive anticipée. Ça n'est pas clair de savoir. Ce que le Conseil d'État a décidé, c'est que dans les témoignages qu'il a entendus, il lui semble que Vincent Lambert avait exprimé une volonté. C'est sur cet élément que ça a été basé. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre un jugement sur le fait de dire telle personne... il faudrait ou il ne faudrait pas continuer à l'alimenter, à l'alimenter de manière artificielle. La question, c'est qu'aurait voulu cette personne si elle ne peut pas s'exprimer dans cette situation.
Myriam Rodallone.
Alors, est-ce que vous croyez quand même, parce que moi j'ai un petit problème avec ça, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous ne croyez pas que la décision ou même la reconstitution de ce qu'aurait voulu une personne, un individu, une personne singulière, n'est pas corrélée à tout un ensemble de données qui sont des données sociétales, politiques, morales. Donc moi c'est un petit peu, au fond, c'est cet arrière-fond que j'essaye, si vous voulez, d'analyser ou sur lequel j'essaye de réfléchir. Par exemple, le fait que même qu'on se pose ce type de problème et qu'on ait tellement de difficultés à trancher, que ce soit si compliqué, cette question, est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que ces problèmes qui se posent aujourd'hui se posent dans une société qui n'est plus du tout la même qu'il y a une cinquantaine d'années, où le statut de la mort a complètement changé, où le problème de la fin de vie n'est plus le même, où la politique de santé et où les réflexions que l'on se pose à propos de ces décisions de fin de vie, elles se font dans une société qui a pour tâche maintenant de gérer aussi les problèmes de santé, les problèmes
c'est-à-dire
de longévité.
C'est devenu un problème social.
C'est devenu un problème social et politique.
Ouais,
ça complique
c'est devenu
beaucoup.
Un problème d'aide. Vous savez, on peint le passé de couleurs extraordinaires. Hein. il y a un siècle.
Ah, mais je ne suis pas en train de dire que c'était mieux.
Je veux dire, la fin de vie, c'était une femme qui accouchait et qui mourait en couche. La fin de vie, à l'époque de Darwin, c'était, il pleurait la mort de 2/3 de ses enfants avant l'âge de 5 ans. Donc, ce n'était pas cette image de la personne allongée, en train de parler tranquillement. Ça arrivait, hein, mais on a cette idée mythique hein, d'une espèce de mort douce, etc. Quand vous voyez la révolution des soins palliatifs, 1970, des femmes médecins anglais disent « Il est inadmissible que lorsqu'on ne peut pas guérir des personnes, on les abandonne sans traiter leurs douleurs, sans soulager leurs souffrances. » Ce qui veut dire que la médecine des années 60 et des années 50, quand elle ne pouvait pas guérir quelqu'un, eh bien, elle ne soulageait pas sa douleur, elle ne soulageait pas sa souffrance et elle ne l'accompagnait pas. Et donc, quand on dit qu'il n'y avait pas, j'allais dire, de problème de la mort, c'est parce que, comme beaucoup de choses, comme les femmes battues, comme les droits des personnes handicapées...
Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème de la mort. J'ai dit que le problème de la mort se posait autrement.
Bah parce, que voilà. Parce qu'il était l'objet d'une certaine indifférence, comme beaucoup d'autres problèmes qui aujourd'hui nous paraissent
mais
importants.
Si vous voulez, mais je n'ai jamais dit qu'on mourait dans la douceur, qu'il n'y avait pas de mortalité infantile. J'ai dit qu'il y avait maintenant une approche de la mort, de la fin de vie, de la santé publique, qui n'était pas exactement la même que celle qui prévalait il y a une centaine d'années. Donc je n'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien, je n'ai pas formulé de...
comment dire, je là, n'ai vous pas... pensez, Myriam Bourdalon, au texte de Michel Foucault,
oui,
notamment dans l'histoire
voilà,
de la sexualité, qui dit
qui
ceci,
paraît...
au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre, c'est substituer un pouvoir de faire vivre ou de rejeter la mort.
Voilà. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, le pouvoir de faire vivre et de laisser mourir, et d'ailleurs, moi, je suis extrêmement frappée que d'un moment, dans le texte de la loi Leonetti, on retrouve cette expression de laisser mourir. Hein, bon. Donc, ce qui prouve...
Mais c'est pourtant, voilà, c'est central dans la discussion que nous avons aujourd'hui.
C'est
savoir,
tout,
mais la question, au fond, est celle-ci. Certes, il y a le fait de la difficulté de se mettre du point de vue du patient lui-même, mais il y a la question de la responsabilité...
De la société,
ses représentants.
Ou de ses représentants.
C'est très compliqué.
Il y a une double responsabilité, à mon sens.
Ouais, parce qu'il y a celle du médecin, également, qui ne représente pas l'État.
Qui fait cruellement défaut dans notre pays, par rapport à d'autres pays. Vous savez que parler de la représentation de la mort, nous sommes le pays européen où le moins de personnes peuvent finir leur vie à domicile accompagnées. 70% des personnes en France, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays européens, meurent à l'hôpital ou en institution. Donc nous avons un grand problème pour accompagner, aider, soigner les personnes vulnérables, mais nous avons aussi un grand problème pour respecter leur volonté quand ils l'expriment. Et donc je crois que si on conjugue ces deux approches, accompagner toutes les personnes en situation de vulnérabilité et écouter leurs décisions lorsqu'elles ont été capables de les prendre. Et on voit bien que dans les situations telles que celles de Vincent Lambert sont des situations extrêmes. Mais dans l'immense majorité des cas, une personne peut exprimer ce qu'elle souhaite. Et donc le caractère raisonnable, je dirais, c'est accompagner la personne, soulager sa douleur, lui donner les traitements qui sont nécessaires, mais l'écouter et ne pas... Toute médecine est obstination. Elle devient déraisonnable quand elle consiste à vouloir faire, entre guillemets, le bonheur de la personne contre sa volonté.
Nous sommes tout à fait d'accord, mais le problème, si vous voulez, de respecter la volonté individuelle ou écouter la volonté individuelle, il ne se pose pas de la même façon dans une société ou dans un État ou avec un pouvoir qui a pour objectif fondamental l'ancien pouvoir de donner la mort ou de donner la vie et la mort et un pouvoir ou une société qui maintenant, au fond, à laquelle est attachée une société, une normativité hein, qui rentre en contradiction
pourquoi
avec
une normativité, préserver la vie, c'est pas une
préoccupation. Non, mais il y a aussi
c'est
un ensemble de... Il y a une gestion de la population. Il y a une gestion de la population, il y a une gestion de la santé publique.
Je ne suis pas sûr qu'il y a un siècle ou deux, la gestion de la population n'était pas beaucoup plus brutale et arbitraire.
Est-ce qu'on pouvait parler de gestion ?
Vous savez, quand on enfermait à la Pitié toutes les femmes...
1653, voilà. L'hôpital général, il semblerait que quand même, au XVIIIe siècle, l'un des soucis essentiels de l'État, ça a été la gestion des populations, la question de la démographie, la question de la santé publique, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, donc il me semble que ce type de problème, que la réflexion sur l'obstination déraisonnable, elle ne peut pas se faire hors de l'analyse d'un contexte qui est un contexte sociétal et politique qui nécessairement va, au fond, infléchir l'appréciation que l'on donne à la notion même de vie.
Alors à ce moment, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'à ce moment, au Canada, dans beaucoup de pays européens, où il y a un accompagnement et où il y a un respect de la volonté de la personne, nous serions dans des conditions de pouvoir très différentes. Donc c'est peut-être une situation qui est spécifique à certains pays.
Ah, c'est possible.
Ce que je veux dire, c'est qu'au XXIe siècle, le souci de la collectivité devrait être d'accompagner au mieux dans les situations de vulnérabilité. Encore une fois, ce que nous sommes très incapables de faire à tous les domaines et à tous les âges. Et d'un autre côté, de respecter la volonté de la personne une fois qu'on l'a accompagnée. Ça ne me paraît pas être administrer les gens, c'est au contraire leur apporter l'aide dont ils ont besoin et respecter leur volonté quand ils considèrent que cette aide ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent.
Compassion, avez-vous dit ? Oui, mais encore faut-il bien entendre le « souffrir avec » que le mot signifie. Ce n'est pas un « gémir avec », comme la pitié, la commisération, figure de la déploration, pourrait l'être. C'est un « lutter avec », un accompagnement. Accompagner peut être le mot le plus adéquat pour désigner l'attitude à la faveur de laquelle le regard sur le mourant se tourne vers un agonisant, qui lutte pour la vie jusqu'à la mort, et non vers un moribond qui va bientôt être un mort. Il y a certes un aspect professionnel à cette culture du regard de compassion, d'accompagnement, un entraînement à maîtriser les émotions qui inclinent vers le fusionnel. Il y a aussi un aspect déontologique concernant les comportements à tenir, entre autres, entre ces deux extrêmes si prompts à se rapprocher, l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie passive, voire active. Mais il y a aussi une dimension proprement éthique, concernant la capacité à accompagner en imagination et en sympathie la lutte de l'agonisant encore vivant, vivant encore jusqu'à la mort. Cet autre regard, ne pourrait-il être que celui du médecin entraîné à accompagner les malades ? Si on suit le fil que vous avez tiré l'un et l'autre, Jean-Claude Amezen et Myriam Revaud-Allonne, sur la difficulté à essayer de, finalement, de se prononcer, de statuer sur cette question du rapport entre un individu dans une situation où il ne peut pas forcément exprimer son désir de mourir et, disons, le regard de la loi, d'une entité qui elle-même va devoir statuer sans forcément pouvoir prendre en compte le souhait de l'individu, le problème où on peut rejoindre finalement ces deux aspects-là, c'est celui que vous évoquez à l'instant, Jean-Claude Amezen, qui est celui de l'accompagnement. Dans le texte que je viens de lire, « Vivant jusqu'à la mort », qui est un texte magnifique de Paul Ricoeur, celui-ci tente de définir ce qu'on entend par accompagnement et notamment revient sur ce terme de compassion. Il serait peut-être facile, de par empathie pour le patient, d'essayer de se mettre à la place, encore une fois. Ce qui serait une erreur, se mettre à la place du patient serait une autre manière de ne pas prendre en compte ce que lui-même aurait dit. Alors là, il faut être extrêmement prudent, puisque peut-être que dans l'expression d'obstination déraisonnable, le caractère déraisonnable viendrait aussi de trop d'empathie, de trop de volonté de se substituer à la place de l'autre au mépris de la volonté de ce patient-là qui lui-même reste, comme le dit Ricard dans une formule magnifique, vivant jusqu'à la mort et donc essayant de ne pas l'enterrer avant que lui-même soit vraiment mort. Myriam Revaud-Allonne.
Oui, je pense que dans ce texte, effectivement, il y a une conception de l'accompagnement qui, en même temps, évite, au fond, quelque chose qui serait trop fusionnel. Ce qui est très beau dans ce texte, d'ailleurs, Ricoeur retrouve le sens étymologique de compassion, c'est-à-dire souffrir avec, mais souffrir, c'est éprouver avec. Hein, souffrir avec, ça vient le pathein, le pathos en grec, c'est pas simplement ce que l'on subit, c'est aussi ce que l'on éprouve activement, ou ce qu'on traduit maintenant plutôt par la sympathie, sympatheia. Et en fait, il y a ici chez Ricoeur quelque chose qui montre bien aussi qu'on ne peut pas se mettre entièrement à la place de l'autre. L'accompagnement, il ne le faut pas. Et que accompagner quelqu'un dans ces moments, ce n'est pas se mettre à sa place, c'est savoir qu'il souffre et savoir que je souffre avec lui, mais que je ne suis pas lui, que je ne suis pas... Et donc c'est un éprouver avec qui n'est pas véritablement une empathie au sens fusionnel du terme, mais qui est plutôt une une reprise de ce que c'est que la sympathie, c'est-à-dire je souffre avec lui, mais ce n'est pas moi qui suis à sa place.
Jean-Claude Lamézène.
Je crois que ce n'est pas se mettre à la place de l'autre, c'est donner à l'autre toute sa place.
Hein, et je pense en tant que vivant.
Oui, et je pense que quand Ricoeur disait qu'on entre en éthique lorsque l'on se pense soi-même comme un autre, c'est ça qu'il disait. Il ne disait pas qu'il faut penser l'autre comme un autre soi-même, mais se penser soi-même comme un autre qu'on ne connaît pas, à la rencontre duquel il faut aller, qu'il faut imaginer et auquel il faut donner sa place. Et s'il y a une obstination, puisqu'on parle d'obstination, moi je dirais que l'obstination raisonnable qui fait défaut dans notre pays, c'est l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Et l'obstination déraisonnable qui existe trop souvent, c'est de ne pas tenir compte de la volonté et des souhaits de la personne.
Alors, un dernier mot, on a la fin de l'émission.
Peut-être qu'à ce moment-là, que le terme de raisonnable est trop pauvre pour rendre compte de cette composante qui est en même temps une composante affective et que ne rend pas le mot de raisonnable.
C'est humaine.
Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux, Jean-Claude Lamézène et Myriam Revaud-Allen. Jean-Claude Lamézène, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Sur les épaules de Darwin, qui est le titre de l'émission que vous présentez sur France Inter le samedi à 11h. Retrouvez l'aube, c'est le titre de ce troisième volume publié par les éditions Les Liens qui Libèrent et France Inter. Myriam Revaud-Allen, on vous retrouve demain pour la fin de cette série d'émissions consacrée à l'obstination, puisque vous êtes la co-auteure du troisième volume de la collection Questions de caractère, collection des Nouveaux Chemins, qui porte précisément sur l'obstination.
Say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoir qui vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comment vivre avec Épicure ? Réponse à l'occasion de l'apparition de Sur Épicure de Marcel Conche aux éditions Encre Marine. Marcel Conche fait figure à part dans le paysage philosophique. D'abord parce qu'il est l'auteur d'une œuvre prolifique. Il a tout autant fait de l'histoire de la philosophie, Parménide, Épicure, Montaigne ou Nietzsche, de l'éthique que de la métaphysique, mais aussi des œuvres littéraires. Et puis ensuite parce qu'il revendique, en creux ou explicitement, un certain rapport à la vie, plus précisément à une manière de vivre. Alors vous venez tout juste de parler de l'acharnement thérapeutique avec cette question sous-jacente, quelle valeur accorde-t-on à la vie ? La perspective de la mort, plus ou moins proche, plus ou moins connue, nous pousse en effet à nous demander de quelle vie nous voulons. Et bien dans ces textes qui paraissent aux éditions Encre Marine, textes qui portent tout sur Épicure, comme l'indique le titre de l'ouvrage, la philosophie d'Épicure et notamment son éthique est l'occasion pour Marcel Conche de développer son propre rapport à la vie, rapport au plaisir, à l'amitié, au droit et puis aussi à la mort. Car c'est dans son texte sur la mort qui ouvre ce livre et qui résonne tout particulièrement avec le sujet de l'émission d'aujourd'hui que Marcel Conche décrit, comme il le dit lui-même, son destin, c'est-à-dire la façon dont une liberté vis-à-vis du juge intérieur s'engage sans retour. L'engagement de toute sa vie à Marcel Conche, ça a été la philosophie, plus précisément toutes les conditions qui lui ont permis de pratiquer la philosophie. Ces conditions, on peut les ramener à une vie selon la nature, ce qui constitue bien son propre système et que ses multiples lectures d'Épicure est clair. Et c'est bien avec cette idée de vie selon la nature que l'on peut lire ces textes, car il ne s'agit pas de commentaires d'Épicure, de commentaires universitaires, mais bien d'usage d'Épicure, de vivre à la manière d'Épicure ou du moins d'en tirer une leçon, de s'inspirer de sa leçon pour être heureux. Je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est « Sur Épicure » de Marcel Conche et c'est paru aux éditions Encre Marine.
Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à l'obstination. Demain, nous retrouverons à nouveau Myriam Revaud-Allon qui nous accompagne depuis lundi, qui sera cette fois accompagnée de Bernard Kouchner afin d'évoquer la question de l'obstination en politique. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous pourrez surtout la télécharger et la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous, Le Temps des Libraires, par Christophe Onodibio, et puis à 11h, Culture Monde, par Florian Delorme.